Bonsoir, c'est Tonde Noire, une émission sur l'actualité du polar, présentée par Jacques.
Et par Jacques, non, par Corinne.
Merci beaucoup. Et c'est donc Jacques qui va commencer en nous parlant d'un livre qui se passe, je suppose, un petit peu dans une ville pas très loin d'ici. Mais en fait, je m'avance peut-être beaucoup parce que
disons qu'il y commence en tous les cas.
Voilà, beaucoup ça de commence, romans de Maurice Guirand commencent à Marseille.
À Marseille, voilà. Donc, c'est un roman donc, de Maurice Guirand qui est paru, comme la plupart de ses romans, aux éditions Gigal. Ce roman s'appelle Train bleu, train noir. Et donc, en fait, deux couleurs, deux époques, mais une même direction pour ces deux trains, l'Allemagne au départ de Marseille. Le premier train, on va commencer par le bleu. En 1993, c'est un des nombreux trains qui ont amené les supporters de l'OM pour la finale de la Coupe d'Europe qui l'opposait à Milan, que je rappelle d'ailleurs que c'est la seule équipe qui a gagné cette Coupe d'Europe en France. Et en 1943, par contre, là, c'est le train noir et ce sont que des wagons à bestiaux. Et ce train noir quitte Marseille pour une destination inconnue de ses passagers, qui sera l'Allemagne, effectivement. Et ses passagers sont, bien entendu, tout à fait involontairement dans ce train. Mais dans ces deux trains, on retrouve trois compagnons de voyage. Robert, qui est plutôt appelé Bert, Mich et Joe. En 1943, donc dans ce train noir, ils ont subi la rafle du Vieux Port, qui a vidé tout un quartier de ses habitants, des Juifs, mais aussi bien d'autres, qui sont conduits vers ces trains de la mort. En 1993, Bert, Mich et Joe reprennent le chemin d'Allemagne, donc, mais le train bleu ce coup-ci. Ils avaient mis des couleurs au train pour chaque groupe de supporters pour éviter qu'ils se trompent.
Parce que les supporters marseillais, il faut qu'ils aient leurs couleurs déjà. Même un numéro, c'est dur pour eux.
Voilà, si on veut. Donc en fait, ce sont désormais trois papis. Vous voyez, ils étaient dans les trains en 1943, donc en 1993, ils sont un peu plus vieux. Ils n'aiment pas plus le foot que ça, même si à Marseille, on aime tous le foot. Mais l'apparition à la télé d'un visage vieilli, lui aussi en fait, a fait ressurgir du passé des souvenirs qu'ils auraient préféré laisser là-bas. Et une envie de vengeance les prend et ils décident de profiter de l'afflux de supporters pour éliminer cet homme qu'ils ont vu apparaître à la télé, qui est responsable de leur malheur. C'est le début du roman. Grâce à une habile construction, en fait, mélange de l'histoire, l'histoire et du présent, Maurice Guirand va nous plonger au cœur d'un roman noir terriblement sombre et nous entraîne au milieu d'événements que tout le monde voudrait bien oublier. Sa description des trains noirs et de l'arrivée dans les camps est prenante, presque à la manière d'un documentaire ou d'un docu-fiction qu'on peut voir sur Arte certaines fois. Et pour une fois, souvent, l'humour et la truculence des personnages arrivaient à faire sourire un petit peu dans les romans de Maurice Guirand, même s'il racontait des choses assez terribles. Et là, on a vraiment du mal à sourire. Il faut dire que c'est pas de...
Ceci dit, ça n'entache pas la qualité de ce roman.
Ah non, pas du tout, non, mais il faut bien savoir que ça va être un peu dur. Et il exerce une fois de plus, comme assez souvent dans ses romans, son devoir de mémoire, bousculant d'un grand coup de poing sur la table les verres de pastis qui pourraient y être paisiblement en train de voir fondre le glaçon. Il nous montre aussi, c'est assez important, qu'à travers la barbarie des nazis, la destruction de tout un quartier de Marseille...
Ah, c'est le quartier du Panier, on précise.
Voilà, pour soi-disant, c'était les mots des Allemands, on peut le répéter parce que c'est étonnant, pour éradiquer la racaille qui s'y cachait. En 1943,
ça vous rappellera peut-être quelque chose.
En fait, là, ça se cachait de profits, des profits juteux, mais des profits qui étaient tout à fait franco-français. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait la rafle de ce quartier-là à l'époque, c'était pas les nazis, c'est pas l'armée allemande, c'était la milice et la police française.
La police française. Parmi eux, d'ailleurs, se cachaient quelques promoteurs qui ont beaucoup gagné à reconstruire ce quartier.
Ou quelques mafieux de la bande de l'époque. Donc c'est un roman, je pense, qu'il faut lire et faire lire surtout pour se rappeler que la barbarie est souvent bien plus près de nous qu'on ne le croit.
On peut préciser que Maurice Guirand, c'est un grand spécialiste de ce type d'histoire, c'est-à-dire de partir d'un événement ou d'une anecdote présente pour nous raconter tout un pan du passé que souvent plein de personnes ont tendance à oublier. Un de ses meilleurs romans, à mon avis, s'appelle L'Arménienne aux yeux d'or, voilà, où il rappelle le génocide arménien, où il raconte la grande histoire par rapport à des petites histoires actuelles.
Des événements que certains ont tendance à occulter de nos jours. Donc.
On va revenir donc.
Maurice Gouiran, Train bleu, train noir, aux éditions Gigal.
Alors, ces romans paraissent toujours en grande collection au départ, et régulièrement, je parlais de L'Arménienne aux yeux d'or.
Ils sont réédités en poche.
Ils sont réédités en poche, donc vous pouvez découvrir cet auteur
dans la collection c'est 11e, poche. C'est son 11e roman aux éditions Gigal et il y en a bien 5-6 qui sont déjà reparus en poche.
Voilà, bien moi aussi je vais parler d'un roman paru en grande collection, comme on dit, c'est-à-dire dans une collection assez chère, 21 €, mais ça vaut vraiment le coup. Donc c'est un roman à la limite du roman noir et du roman policier. C'est un auteur, par contre, dont on vous a souvent parlé, un auteur du Nord, Gunnar Stahlson. Et si jusqu'à présent, il avait écrit des romans noirs, il s'est mis en tête de nous raconter l'histoire d'un siècle de son pays, donc le Danemark, et à travers la vie de plusieurs personnages. Et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un côté polar, puisque tout va commencer par un meurtre. Donc ce roman s'appelle « Le roman de Bergen ». En fait, il va y avoir six romans qui vont tous s'intituler « Le roman de Bergen ». Deux vont s'appeler « 1900 l'aube », tome 1, tome 2. Et les autres, je vous rappellerai peut-être, je ne sais pas encore en fait les titres, donc je vous les dirai au fur et à mesure. Donc tout commence, un siècle d'histoire, 31 décembre 1899, le consul Freeman est assassiné dans la toute petite ville, à l'époque c'était une toute petite ville de Bergen, en Norvège. La veille, tout à l'heure je me suis trompée, ce n'est pas l'histoire du Danemark, je rectifie, c'est l'histoire de la Norvège.
C'est pas très loin.
Le problème, c'est que dès qu'on passe un petit peu une certaine ligne, c'est tellement dans le nord que ma vue doit se troubler un petit peu. La veille, donc le consul Freeman, assassiné pendant la nuit du réveillon, il avait été vu à la réception de son beau-frère en compagnie d'une femme qui n'était pas la sienne. Et ça, dans le petit monde bourgeois de cette ville, ça n'est pas passé inaperçu. Deuxième personnage intéressant, l'inspecteur Morand, qui va être chargé de l'enquête et qui rend visite à cette fameuse jeune femme, Maren Christine Pedersen. Sa vie aussi va être complètement bouleversée par cette jeune femme. Quelque part ailleurs, un autre personnage intervient. Alors je vais essayer de prononcer son nom, Thorleif Nesbø, qui part à 17 ans pour participer à la grande aventure du chemin de fer qui doit relier Bergen à Christiania. Ça ne vous paraît pas grand-chose de construire un chemin de fer, mais là, dans les conditions extrêmes, je ne sais pas quelle température, lui et ses compagnons vont vraiment réussir des prodiges pour terminer ce chantier, surtout qu'il passe carrément sous de nombreuses montagnes. Quand même, il y trouvera l'amour dans les beaux yeux de Trine, mais aussi le chagrin quand celle-ci lui préfère un autre ouvrier. Encore un autre personnage, Tordis. Lui, il débarque à Bergen pour y travailler. Entre autres, chez le directeur Helgesen, où le fréminois de Gurin ne tarde pas à lui tourner les sens. Vous voyez un petit peu, j'ai essayé de poser quelques personnages. On commence là une grande saga, même si le roman commence par un meurtre, et il va se terminer, celui-ci, en 1916, par le gigantesque incendie totalement réel qui a détruit une grande partie de la cité de Bergen.
En Norvège.
En Norvège, merci de le préciser. Gunnar Stahlson invente pour nous de multiples destins de tous horizons et il a à cœur de nous raconter l'histoire de sa ville, puisque c'est là où il vit actuellement, Bergen, à travers l'histoire de Trine, Gurin, Christine, Christian le flic, de l'ouvrier Thorleif ou du très puissant Helgesen. En fait, l'auteur débute une série de 6 romans où un siècle d'histoire de la Norvège va se dérouler devant nos yeux. Je pense qu'il y aura une adaptation cinématographique et j'espère vraiment qu'on pourra la voir sous-titrée et que, parce que c'est vraiment très très intéressant. Des multiples destins qui s'entrecroisent, des tragédies, de jolies histoires d'amour. C'est un grand roman picaresque. Vraiment, c'est brillant et on attend avec impatience le deuxième qui devrait sortir, je pense, peut-être avant l'été. Et je vous dirai le titre des autres au fur et à mesure qu'ils sortiront parce que...
Voilà, il faut préciser, je ne sais pas si c'est fait, que c'était aux éditions Gaïa.
Tout à fait. Alors, c'est une édition qui se reconnaît bien puisque toutes ces pages sont roses.
Comme du saumon fumé.
Oui, mais heureusement, il n'y a pas l'odeur, oui. Alors, pendant que Jacques fait ses petits commentaires, j'ai retrouvé le titre des différents volumes. Donc, comme je vous ai dit, deux tomes pour l'Aube. Ensuite, 1950, Le Zénith, encore deux tomes. Et 1999, Le Crépuscule, deux tomes. On voit bien d'ailleurs là la montée des pays nordiques dans les années 50 avec leur brillant modèle de social-démocratie et malheureusement leur grand déclin dans les années 90, puisque le dernier, Le Crépuscule. Voilà.
Un petit peu de musique. Le groupe, c'est OC Blues, qui est un groupe de la région, qui est essentiellement vansois. Le titre s'appelle « 4 minutes to tell ».
Donc c'était OC Blues et Jacques, tu nous dis deux mots sur ce groupe.
Voilà, on a passé ce groupe pour faire un enchaînement
subtil,
voilà, puisqu'en fait celui qui a écrit les paroles de ces 12 blues du groupe OC Blues, c'est Philippe Leroy, qui est aussi un auteur de polar, de thriller.
Je parierais que tu vas nous parler de son dernier livre.
Qui est lui-même de la région vansois.
Voilà, un groupe vansois pour un auteur vansois, voilà. En plus.
Et donc là, il passe la casquette d'auteur de polar. Philippe Leroy, son dernier roman s'appelle « La dernière arme ». Et il est publié aux éditions Au Diable Vauvert pour 23 € et 600 et quelques pages. Donc un beau pavé, mais très très intéressant. Et un roman comme celui-là, ça ne se résume pas, je ne vais pas vraiment vous en parler. Tout commence en fait par une succession d'enlèvements de jeunes femmes, belles et intelligentes. Déjà, c'est pas... courant.
Pas de commentaires, s'il vous plaît.
Et en plus, elles vivent toutes près, voire très très près, d'hommes de pouvoir, ministres, chefs de gouvernement, PDG de multinationales, etc. C'est à la fois très très intriguant et politiquement inquiétant, bien qu'il n'y ait, ou surtout parce qu'il n'y a pas, de demande de rançon. Une profileuse belge, il y en a, sorte, disons, d'Hercule Poirot du XXIe siècle, n'est-ce pas, va commencer l'enquête sur ordre de la police française. Et elle va vite avoir besoin des talents de Nathan Love, qui est le héros principal des deux derniers romans de Philippe Leroy, pour le mythique Nathan Love même, et elle va aller le dénicher dans sa retraite pour le convaincre avec brio et, disons, des arguments très très féminins.
Parce qu'elle est aussi très belle et très intelligente.
Voilà, donc de reprendre du service. Et ben, Nathan Love va reprendre du service et il va mener son enquête un peu partout dans le monde. C'est un peu le principe des romans de Philippe Leroy. Philippe Leroy a beaucoup voyagé et son héros voyage beaucoup aussi. Paris, New York, le Kosovo, Tokyo, des îles paradisiaques, mais aussi l'Éthiopie, la Tanzanie, Moscou, bref, j'en passe. De l'action, de la violence, un peu de sexe, même pas mal de sexe. Nathan Love est très séduisant et il a à peine le temps de méditer qu'il doit quitter l'endroit où il est pour aller à l'autre bout du monde, explorer un indice, interroger un témoin, retrouver un méchant ou une méchante, parce qu'il y a aussi des méchantes. Elles sont pas belles et intelligentes, elles sont parfois méchantes, voire salopes. Voilà. Alors Philippe Leroy nous place là au cœur d'un grand complot mondial. Son héros est un nouveau James Bond, mais du 21e siècle, c'est-à-dire il n'y a plus de guerre froide. L'ennemi est partout, et c'est surtout en fait les puissances d'argent, les réseaux mafieux. Mais ce James Bond, en fait, il a un avantage, ou enfin une différence en plus, c'est qu'il n'est pas anglais, il est un mélange de Navajo, de métis d'Indien Navajo et de...
Oui.
Et oui, ben je ne sais plus comment elle est, sa mère, j'ai oublié.
Ben disons que c'est un métis et que ça lui permet d'avoir... des compétences à la fois de son papa et à la fois de sa maman.
Voilà, et en fait, donc, il est du coup adepte de philosophie orientale et d'arts martiaux. Mais bon, quand il a besoin de tirer un coup, de pistolet, il ne dédaigne pas le Walter PPK comme ce brave James.
Oui, heureusement qu'il n'est pas le fils de l'inspecteur Navajo, ça lui donnerait beaucoup moins de...
Navajo, alors, pour qu'on comprenne.
Voilà.
Donc, en fait, c'est un polar à la fois pop et new age. Un personnage auquel on s'attache très vite, c'est sa deuxième aventure. Et malgré les 600 pages, en fait, c'est un roman passionnant, très très bien construit. L'intrigue est...
C'est toujours le côté thriller. Hein.
Voilà, c'est le côté thriller. Philippe Leroy est en fait assez bon, même très très bon dans ce genre de...
Je dirais même que c'est un des meilleurs en France et malheureusement, on le reconnaît moins que d'autres.
Voilà, mais enfin bon, il commence à avoir du succès. Il est traduit dans plusieurs... pays, et donc voilà, c'est le thriller dans le meilleur sens du terme, même si je dis que c'est le deuxième de la série, on peut tout à fait lire celui-là sans avoir lu le précédent, mais je précise quand même que le précédent est paru en livre de poche dans la collection Point Seuil Thriller.
Tu irais jusqu'à nous dire le titre du précédent ?
Oui, tout à fait, Le Dernier Testament, après La Dernière Arme, Le Dernier Testament. Voilà, donc c'est réédité en poche thriller, ça vaut 7,50€ la réédition. Donc si jamais vous voulez pas vous lancer tout de suite dans celui-là, n'hésitez pas à découvrir Nathan Love. Voilà, et maintenant vous allez découvrir les informations.